14h ici à Washington DC, 19h en temps universel. Merci d'écouter La Voix de l'Amérique. À ce micro, Mamadou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Dans une heure de temps débute la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la 34e édition. Au bout d'un mois plein de suspense, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, affronte en finale de la compétition le Nigeria à partir de 20h heure locale et temps universel. Les éléphants ivoiriens tenteront de gagner un troisième titre après leur victoire de la CAN en 1992 et 2015. Alors que le Nigeria cherchera une quatrième étoile, les Super Eagles l'ont remporté trois fois en 1980, 1994 et 2013. À RDC, les autorités sécuritaires ont plaidé pour la levée du moratoire sur la peine de mort concernant des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre entre les forces gouvernementales et le M23, selon un compte rendu du Conseil des ministres. La ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté vendredi à un Conseil des ministres la note d'information relative à la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC, selon un compte rendu de la réunion gouvernementale. À RDC, la peine de mort est régulièrement prononcée, notamment dans les affaires impliquant les groupes armés dans l'est du pays, mais n'est plus appliquée depuis un moratoire décidé en 2003. Les condamnations à mort sont systématiquement commuées en prison à perpétuité. L'Union européenne a appelé ce dimanche les autorités sénégalaises à garantir les libertés fondamentales après la mort d'une troisième personne dans le pays depuis le début de la contestation liée au report surprise de l'élection présidentielle. L'UE présente ses condoléances aux proches des défunts et appelle les autorités à garantir les libertés fondamentales, a déclaré sur X Nabila Masrali, porte-parole du chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell. Un lycéen de 16 ans a été tué alors qu'il manifestait à Ziguinchor, portant à 3 le nombre de tués dans le pays depuis le début de la contestation liée au report de la présidentielle. Initialement prévu le 25 février, Landing Camara est mort samedi soir des suites de ses blessures à l'hôpital régional de Ziguinchor, chef de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, où des affrontements entre groupes de jeunes et forces de sécurité se sont poursuivis samedi. Au Maroc, 5 personnes sont mortes dans l'effondrement d'une maison de la Médina, vieille ville de Fès, ont rapporté ce dimanche les médias locaux. Le bâtiment de 3 étages de construction ancienne s'est partiellement effondré samedi en fin de journée après de fortes pluies, d'après ces sources qui ont précisé que 3 hommes et 2 femmes avaient péri dans l'accident. La bâtisse située dans la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'était toutefois pas considérée comme menaçant de tomber en ruine ou représentant un danger pour les habitants et le voisinage, a indiqué le site d'information LE360. Le PDG de la plus grande banque du Nigeria ainsi que l'ancien président de la Bourse du Nigeria sont morts vendredi dans un accident d'hélicoptère ici aux États-Unis. Le patron d'Access Bank Group, Herbert Wickway, est décédé aux côtés de sa femme et de son fils, a indiqué le groupe dans un communiqué. Un hélicoptère Eurocopter EC-130 s'est écrasé près de Nipton en Californie vers 22h heure locale le vendredi 9 février. 6 personnes se trouvaient à bord, a indiqué l'administration fédérale de l'aviation américaine. Elle a précisé qu'une enquête serait ouverte. Environ 90 minutes après le décollage, l'hélicoptère a heurté le sol, a précisé un membre du Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Quelques 4000 opposants selon la police au projet de loi ouvrant la voie au mariage homosexuel et à l'adoption par les couples de même sexe se sont rassemblés ce dimanche à Athènes, en Grèce, à quelques jours du vote par les députés de cette réforme. Des manifestants réunis en contrebas du Parlement où le projet de loi porté par le gouvernement conservateur devrait être adopté mercredi ou jeudi, ont déployé des banderoles proclamant non à la parentalité homosexuelle où la famille grecque orthodoxe, c'est un père, une mère et des enfants. Jusqu'ici, pour les couples homosexuels ayant des enfants, seul le parent biologique a des droits sur ses enfants. Et puis l'Arabie Saoudite a annoncé ce dimanche avoir versé 250 millions de dollars d'aide au gouvernement internationalement reconnu du Yémen que le Royaume du Golfe soutient dans sa guerre contre les rebelles Houthis. En août dernier, Riyad s'était engagé à fournir près de 1,2 milliard de dollars pour réduire le déficit budgétaire du gouvernement et payer les salaires des fonctionnaires. Fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir écouté Mohamed Oumfa. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Vanilakiza avec vous, Lionel Nkunaminagayuma assure la mise en onde. Ce soir, la vie et l'héritage de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kossi Pozro, récemment décédé, figure influente au Togo. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kossi Pozro, laisse un héritage spirituel et politique durable. Avec nos invités, vous découvrez sa vie et son impact remarquable sur la scène nationale et internationale. Je suis en ligne avec Christian Ignacio Barriga, journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse UCAP Togo. Il est l'auteur du livre « Ecce Homo, voici l'homme », encore sous presse, qui doit paraître en 2025 pour marquer le premier anniversaire du décès de l'archevêque Pozro. Barriga, bonsoir.
Bonsoir, cher Éric, et bonsoir à tous les éditeurs de La Voix de l'Amérique.
Notre deuxième invité, le professeur Benoît Eli Awazimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, Cerclade en sigle, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Eric et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs.
Merci à vous tous d'être avec nous. Barriga, je commence avec vous. Voudriez-vous partager quelques aspects moins connus de sa vie que vous avez découvert lors de votre entretien avec lui ou de votre recherche?
Merci Eric. Il faut dire que l'homme que nous pleurons depuis le 4 janvier 2024 est un homme particulier. Déjà, dans la préparation de mon livre avec lui, son enfance a été vraiment un peu dure. Il a été mordu par un serpent. Et ce que les gens ne savent pas aussi, Monseigneur Philippe Fanoko Pozro était un jeune très souffrant lors de sa formation pour devenir prêtre. Et lui-même a l'habitude de dire qu'après l'ordination, il demande seulement 5 ans au bon Dieu pour le servir. Et heureusement pour lui, il en a fait plus de 50 ans.
À la lumière de votre livre, Barriga, sur l'archevêque Pozro, quel aspect de sa vie ou de son travail pensez-vous que les gens devraient mieux comprendre?
J'ai un pasteur d'abord qui a une voix, il faut le dire, percutante et énergique. Et puis, il séduit toujours l'auditoire. Hein. Chaque fois qu'il parle de Dieu, de l'Église, et de sa foi, de sa piété mariale, et de son espérance, Monseigneur Pozro devient un autre homme. Et puis, il faut dire qu'il a une mémoire d'éléphant. Hein. Et sa mémoire est toujours infaillible. Il aligne, on dates, on enchaîne avec les événements. Hein. Donc, c'est un peu l'homme. Donc, il faut dire que Monseigneur Pozro a un parcours exceptionnel et surtout, comme il est très énergique, il écoute d'abord celui qui vient en premier pour parler de l'autre et il réagit un peu sec. Mais quand il comprend un peu la situation, il revient à de meilleurs sentiments. Je peux le dire sans embâche que c'est un pasteur, un baptisteur et un homme très proche de Dieu.
Benoît, vous avez écrit un article pour lui rendre hommage. C'était encore de son vivant. Comment vous avez connu l'homme et qu'est-ce que vous développez dans votre article à l'époque?
Merci beaucoup Eric. Effectivement, l'article, je l'ai écrit en mars 2020. C'est au moment où Monsieur Pozro était parti se plaindre à la représentation de l'Union africaine à Lomé. Il y a les vidéos, on le voit marcher avec sa canne. Cet homme de 90 ans avec sa canne en train de marcher comme un militaire avec une énergie tout à fait impressionnante, ça m'a marqué. Toujours à la même occasion, il avait fait un discours, un appel aux Togolais et à la communauté internationale. C'était après les élections. Alors, qu'est-ce que je développe dans cet article? C'est d'abord, comme Barilla vient de dire, c'est d'abord un homme qui est d'abord un évêque. Même pendant ce combat, il faut dire, pendant ces manifestations qu'il a organisées, hein, on est venu chez lui, on est entré dans son domicile, on a dispersé les malades. Mais je retiens, c'est d'abord un évêque, un berger. Un berger, c'est celui qui veille sur le peuple de Dieu. Et effectivement, vous allez voir ça dans YouTube, quand il parle au peuple togolais, il dit, hein, je me permets de citer une citation, en parlant de la situation au Togo, voilà ce qu'il a dit. Cette fois-ci, je le cite, hein, le dictateur Faure Gnassingbé ne pourra plus voler la victoire du peuple togolais, pour la simple raison que nulle créature ne peut tromper ou voler Dieu. Là, voilà, là c'est l'évêque qui parle. Et à la fin de ce discours, il a béni le peuple togolais. Il a dit que comme Pharaon s'est interposé devant le peuple de Dieu, Dieu, l'heure du Togo, a sonné. Et je vous parle de cet article en apprenant qu'il a été exilé en Suède, qu'il est mort sur le front. Nous, comme Africains, Monseigneur Pozzo, c'est un patriarche, c'est un évêque, c'est un acteur politique qui a dirigé la conférence nationale souveraine du Togo. En même temps que d'autres évêques au Gabon, au Mbé, au Congo, au Brazzaville, Monsengo à Kinshasa. Voilà un peu ce que je retiens. Même si je retiens, à son âge, à 90 ans, son intrépidité, sa combativité. Voilà, c'est un prophète, en fait. Et ce qui est tout à fait complexe et riche dans sa personnalité, c'est le fait, tout en étant évêque, il prend une posture prophétique. Parce que le prophète, il répond à la question « Que dit l'Esprit de Dieu ?» Et l'évêque, il répond à la question « Que dit l'Église ?» Et quand un évêque prend une posture prophétique, ça donne une figure tout à fait fulgurante, charismatique de Monseigneur Pozzo. Et je suis content que M. Barilla a déjà commencé à écrire un livre, parce que j'ai pensé, en préparant cette émission, c'est, évidemment, et même s'il peut encore lui-même, comme il connaît déjà l'homme, faire peut-être un autre ouvrage collectif, où les gens de plusieurs nationalités peuvent participer. Parce que M. Pozzo, il est pour toute l'Afrique, il est pour tout le monde. Et les images le montrent devant l'Union européenne, en train de marcher avec sa canne. Ça, c'est impressionnant, et ça ne peut pas laisser quelqu'un indifférent, surtout dans une Afrique, après 60 ans de l'épanage, sans être pessimiste, nous sommes passés à côté de l'indépendance, n'est-ce pas? Toute la jeunesse veut quitter l'Afrique à cause des régimes de certains pouvoirs autocratiques qui ignorent que Dieu seul a le dernier mot.
Barilla, voudriez-vous partager des contributions spécifiques de l'archevêque Pozzo en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise?
Merci Eric. Il faut dire que Monseigneur Pozzo a travaillé au commissariat de la République, pour ne pas dire à l'Assemblée nationale en quelque sorte, qui est le premier président de l'Assemblée nationale. Et grâce à lui, nous avons la Constitution. Et bon, quand, vous savez qu'il fut évêque d'abord d'Atapanou et après archevêque de Lomé. Donc, au niveau de l'archidiocèse de Lomé, Monseigneur a essayé d'implanter ce que nous appelons la commission de justice et paix. Et puis, au niveau du Togo, nous avons la fraternité des prêtres diocésains du Togo. Il fait partie des pionniers. Et puis, chez lui, grâce à lui, nous avons Radio Maria Togo, qui est une radio très puissante en termes d'évangélisation et de communication. Monseigneur a un héritage vraiment lourd et il a vraiment contribué en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise. Et je donnais tout à l'heure ce bel exemple. C'est lui qui a même dirigé notre conférence nationale. La conférence nationale et fait partie de ceux qui ont rédigé, je le disais tout à l'heure, la constitution togolaise. Donc, toutes ces actions sont vraiment en faveur de la paix et de la réconciliation.
Et comment son engagement politique, notamment lors des événements clés, a-t-il influencé la scène politique au Togo, Barilla?
Ah oui, après sa retraite, je crois que c'est là où tout a basculé un peu. Bon, pour certains Togolais, Monseigneur Médiapa s'investit dans la politique. D'autres disent qu'il voudrait voir l'alternance. Le professeur tout à l'heure a fait allusion à son engagement, surtout son engagement politique. Je partage son avis, mais pour nous, les jeunes, on se dit c'est un modèle parce que c'est un pasteur qui a vraiment forgé beaucoup de jeunes, de telle manière que moi par exemple, c'est grâce à lui que je suis à Radio Maria, et grâce à lui j'ai essayé aussi d'écrire quelques ouvrages. Et c'est quelqu'un qui encourage. Donc, son engagement politique est apprécié de diverses manières. Hein. Donc, moi, personnellement, je ne veux pas me prononcer sur son engagement.
Benoît, comment évaluez-vous le rôle de l'archevêque Philippe Fanoko-Pozro dans la sphère politique et considérez-vous que ses actions ont dépassé les limites de son rôle ecclésiastique?
Quelques jours avant sa mort, il était encore en train de filmer. Je pense qu'il y a un groupe de gens qui vient peut-être, je ne sais pas, calomnier, il leur a dit d'arrêter, il faut arrêter. Je le cite notamment. Il faut arrêter parce que vous risquez d'avoir la malédiction. Parce que, Eric, une personnalité comme ça, Pozro, qui a une telle envergure internationale et mondiale, on ne peut pas, comme chez nous on dit, on ne peut pas arrêter les vents avec la main. Alors, je réponds plus concrètement à votre question, notamment, non seulement l'engagement à la conférence nationale souveraine est tout à fait paradigmatique de l'avenir d'une certaine démocratie à l'Afrique après le régime des autocrates coloniaux qui ont travaillé avec la France-Afrique, n'est-ce pas, hein? Le Togo, par exemple, ça c'est connu. Vous voyez, il y a des faits. Mais deuxièmement, je reviens encore devant l'Union européenne, il était avec ces gens qui l'entouraient. Je te dis, Eric, il a marché, en attendant qu'on l'accueille, avec sa canne, Eric, il marche. Un homme de 90 ans, vous voyez. Mais il marche, mais il parle aussi. Vous voyez. Donc c'est que, alors, quand je le vois, on dirait vraiment une incarnation des grands prophètes de l'Ancien Testament, comme Élie, qui vont devant le roi. Ils vont affronter le roi, mais pas en son nom personnel, mais c'est pas vrai, mais c'est le nom de Dieu. Et il faut écouter ce discours, Eric, par tous ces dieux. Dieu, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais en même temps, la justice de Dieu. Personne ne peut voler Dieu. Et je pense que sa mort va certainement mettre à l'œuvre beaucoup de chercheurs continentaux, théologiens, politologues ou sociologues, parce que là, c'était après l'élection, à 90 ans, et d'ailleurs, ça peut poser une première question, rapport Église-État à l'Afrique, ce n'est pas unilatéral, c'est différent d'un pays à un autre. Vous voyez, quand un homme de 90 ans parle, il prend la parole devant l'Union européenne, même devant le Vatican, devant la communauté internationale. Il dit que nous ne pouvons plus continuer comme ça. C'est ça le travail d'un prophète Élie. Et dans l'Ancien Testament, l'un des grands modèles, c'est Moïse, que Monseigneur Pozro cite constamment dans ses discours, hein, avec Pharaon, mais aussi Élie. Et, alors, quel est le problème? Le problème, c'est que ce qui touche nous en Afrique, la théologie politique et prophétique, et un évêque, c'est ça son travail. C'est, il revendique l'autorité de Dieu, il parle au nom de Dieu. Et tout à l'heure, avant que l'émission ne commence, je me disais, bon, dans mon imagination, je pense que qu'est-ce que Dieu lui a dit quand je t'ai rencontré? Parce que contrairement à ce que nous croyons, Dieu il voit tout. Vous voyez? Et lui, comme évêque, et même en Suède encore, il faisait des interventions. Il suivait la situation au Togo. Mais ce que je retiens, pour récapituler, c'est une certaine fougue prophétique. Une certaine fougue prophétique, une verve prophétique, un grand orateur devant l'Éternel. Mais aussi un grand analyste. Toutes les situations d'injustice chronique qui se sont sédimentées pendant la post-colonie en Afrique, nous sommes passés à côté de nos indépendances, Eric. Et l'Église ne peut pas être seulement dans la sacristie en train de raser le mur. Vous voyez, Dieu dont nous parlons, Eric, nous vous laissons des plumes, que nous ne voulions pas. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas échapper à sa rencontre. Et ça, surtout après ses engagements devant l'Union européenne et avant son exil et pendant son exil, il montre quelque chose de décisif. Quelque chose, c'est que la foi chrétienne est basée sur l'intervention historique et libératrice de Dieu dans l'histoire. Dieu n'accepte pas l'esclavage d'un groupe d'hommes contre d'autres, parce que lui seul a l'autorité, la la vraie autorité. Et effectivement, l'autorité du berger, hein, l'autorité du berger, c'est loin de l'autorité de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ses exploits personnels. C'est ça le rôle d'un évêque. Ce n'est pas d'abord de vivre confortablement à 90 ans pour qu'il devienne encore aller dans l'arène politique. Pourquoi il devait aller dans la rue, il marchait dans les manifestations après les élections. C'est simple fait, parlons-en. Donc je pense qu'aujourd'hui, il repose la question de la théologie politique et prophétique en Afrique postcoloniale dans une situation où, malgré les apparences, l'Afrique regresse depuis les indépendances. Et l'une des choses qui soulève, c'est l'ethnisme, les pathologies ethno-tribales, mais aussi une certaine complicité de certains évêques par rapport aux autocrates. Et aujourd'hui, Eric, si je peux résumer mon intervention, c'est de dire que qu'est-ce que Dieu lui a dit ? Relancement de la parce que Dieu n'existe pas, c'est une erreur. Une erreur monumentale. Donc, il a été jusqu'au bout. Pour moi, c'est une fête aujourd'hui. Ce n'est pas un deuil. C'est un patriarche. C'est un roi. C'est un évêque qui a tiré sa révérence. Mais en disant, jeunes gens, jouez aussi votre partition avant de tirer votre révérence. Et quand je le vois, lui, en fait, l'exil qu'il a passé en Suède, pour moi, c'est comme Élie. Dieu lui dit, ok, tu veux maintenant finir ta mission, prépare la relève. Je crois que la relève, déjà le livre qui est écrit par notre collègue Barilla, c'est déjà un signe, mais ça doit continuer, pas seulement pour le Togo, il n'est pas une propriété du Togo, c'est un prophète de Dieu. Et c'est là qu'on doit l'aborder.
Merci.
À la fin de ces jours, je vous dis, en Suède, il était encore en train de fulminer.
Oui, merci. Oui, ben non, on va...
Laisse personne indifférent, et c'est ce qu'on appelle l'ire prophétique. La colère prophétique, mais c'est la colère de Dieu lui-même. Je reviens même à l'Occident et à l'Afrique. On pense que Dieu, c'est juste quelqu'un qui dort, qui ne fait rien, qui n'a aucune autorité. C'est une erreur.
Des religions aujourd'hui abordent la vie et l'héritage de l'archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanokokosi Pozro, récemment décédé. Barilla, en explorant sa vie, pensez-vous que les implications politiques de l'archevêque ont été une extension naturelle de son engagement religieux ou est-ce que cela représente une divergence significative de son rôle traditionnel au sein de l'Église?
Oui, il faut dire que Mgr Pozro, depuis à sa famille évêque, a toujours une passion pour Dieu, pour l'Église et surtout pour le peuple de Dieu. Donc, sa philosophie est très simple. Je vous rappelle qu'il est même diplômé de licence de philosophie et de théologie à Rome. Donc, Monseigneur, pour lui, le peuple ne doit pas souffrir. Que la répartition soit vraiment équitable et que nous soyons vraiment humains de partager aussi les douleurs des uns des autres. Donc, étant dans cette dynamique, son engagement aux côtés du peuple est mal vu par certains, mais je crois que si vous voyez un peu la vue même du prélat, il est dans sa dynamique, hein, parce que il fut aussi professeur et puis directeur spirituel, tout ceci recteur du séminaire. Il est en contact avec le peuple de Dieu, il est en contact avec la population pauvre. Donc avec tout ce bagage, il a le droit aussi de s'engager en politique. C'est ça. C'est ce que moi je pourrais dire très simplement.
Comment l'héritage de l'archevêque Pozro pourrait-il continuer à influencer la scène religieuse et sociale au Togo, voire au-delà, dans les années à venir, Barilla ?
L'héritage, il faut dire que Monseigneur Todro fut aussi délégué national des prêtres togolais et secrétaire général du secrétariat permanent du clergé africain. Et donc je salue vraiment l'engagement aussi du professeur Benoît qui connaît plus Monseigneur via les réseaux sociaux. Et vous savez, avec Monseigneur Todro, nous avons eu aussi une belle cathédrale au niveau d'Atapané. La cathédrale a été entamé par son prédécesseur, Mgr Bernard Obiti Atapa. C'est avec Mgr Odro que nous avons eu cette belle cathédrale. Il a aussi créé le collège de Albert le Grand d'Atapa, une référence en tout cas. Et pour cette obsèque, même les anciens élèves voudraient aussi participer aux obsèques du Mgr, parce que Mgr a forgé un bon nombre de fonctionnaires, des engagés de la population. Il a aussi une congrégation religieuse, hein, les Sœurs de Notre-Dame de la Trinité, et il a reconstruit aussi la paroisse Sainte-Famille de Tapami, une paroisse de référence, la cathédrale de Lomé, n'en parlons pas. Mais cet héritage, je crois qu'avec ses successeurs, il y a un travail de fond qui se fait à Tapami avec Mgr Moïse Tourou depuis l'année dernière. Et à Lomé, Mgr Nicodème Bariga, c'est vrai sur le gâteau. Mgr Bariga aussi fut évêque d'Atapané et maintenant archevêque de Lomé. Donc je crois que Mgr Bariga André, c'est sur le pas, le Mgr Philippe Anopopotro. Donc je crois que l'héritage est sauvegardé et maintenant il faut prendre soin.
Benoît, il nous reste une minute avant de finir cette émission. En tant que spécialiste de la religion, comment évaluez-vous l'approche de l'archevêque Pozro face aux défis contemporains auxquels la société togolaise fait face?
Comme je dis, Eric, dans une minute, je peux dire qu'il est d'abord un prophète. Donc, il est au-delà du Togo parce que, comme vous avez vu, par les médias sociaux, surtout son exil en Suède, a aussi montré jusqu'où nos pays africains, le Togo par exemple, était exilé un homme de 90 ans hors de son pays, de la terre de ses ancêtres, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Je crois que M. Pozro, je sais que vraiment c'est la fête au ciel, au sens où il ouvre la théologie africaine, il se positionne dans l'échiquier théologique africain comme un prophète de Dieu, comme un évêque prophète. Parce que tout évêque n'est pas prophète, et tout prophète n'est pas évêque. Mais quand on est avec des prophètes, ça donne un certain pouvoir. Donc, moi-même, je suis content. J'espère que le livre de M. Bariga va sortir. Déjà, comme nous, on a besoin d'un livre pareil. Mais aussi, j'aimerais que M. Sassimondé rappelle, parce qu'il y a un travail énorme de cet héritage. Ce n'est pas seulement pour les Togolais. C'est pour la théologie africaine, jusqu'où en Afrique, Dieu, c'est un Dieu qui libère, où il est l'opium du peuple qui maintient les Africains dans l'esclavage et dans des régimes insupportables où les évêques qui devraient parler, certains ne parlent pas pour manger et boire. On doit dire ça. Donc moi, Monsieur Pozro, je le mets au rang des grands évêques africains, Malula, Milingo, Pozro et tous les autres évêques qui parlent à un moment donné par rapport à Dieu et non par rapport aux dictateurs qui allaient les assassiner. Et moi-même, je me considère dans le courant prophétique et politique de la théologie africaine postcoloniale. Mon œuvre, la partie publiée, est là pour attester de mon engagement viscéral, de mon engagement intrépide et de mon engagement enthousiaste prophétique de la théologie africaine postcoloniale.
Merci.
Je vous rends hommage encore par écrit, elle a besoin des archives, comme M. Bariga, son livre, mais aussi, voilà, quelqu'un doit prendre ses archives, ses écrits, et aussi perpétuer sa mémoire, nous continuons notre route, il a fini la sienne, il nous demande nous de rester debout et de tenir devant l'Éternel, de tenir devant Akkad, le prophète Élie, le prophète tient devant le roi, tient devant le dictateur africain, parce que Dieu seul a le souffle de tout homme dans ses mains. Dieu seul a le souffle de tout homme dans ses mains.
On n'a plus de temps.
Et vive la théologie prophétique et politique.
Benoît Eli Awazimbambi Kungu, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas basé à Ottawa au Canada. Merci également à Christian Ignacio Bariga, journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse UCAP Togo, Eric Manilakis a été avec vous au micro. La mise en onde assurée par Lionel Lunadila Gahiba. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique. À la prochaine.